Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h, Pierre de Villeneuve.
Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans Les Grandes Voix. Bonjour à Catherine Ney, Michel Cotta et Charles Villeneuve.
Bonjour, bonjour, bonjour.
Question centrale au cœur de cette émission, où est passé Emmanuel Macron? Le président de la République nous avait pourtant habitués à une hyper-présidence. Force est de constater qu'on ne l'entend plus depuis que son nouveau gouvernement a été nommé. Entre l'affaire Abad qui embarrasse sa toute nouvelle équipe, la polémique Pape Diaye, la peur de certains de voir les programmes d'histoire remaniés de fond en comble, encore la question du burkini, silence radio. Est-ce pour laisser sa nouvelle chef du gouvernement s'installer dans ses nouvelles fonctions ou pour ne prendre aucun risque à 15 jours des élections législatives? Les paris sont ouverts. Idem sur le front international, plus un coup de fil à Zelensky ou à Poutine, plus une apparition au sommet. Sur le terrain en Ukraine, pourtant, les forces russes continuent de progresser et ce malgré les envois d'armes lourdes venant des pays sympathisants à la cause ukrainienne. Pour la première fois, Vladimir Poutine entre-ouvre la porte à un terrain de négociations. Dans un échange avec le Premier ministre Draghi, le chef du Kremlin a annoncé être prêt à apporter une contribution significative pour surmonter la crise alimentaire en débloquant les stocks de blé ukrainien si les sanctions envers la Russie étaient levées. Est-ce une avancée ou du chantage en mode roulette russe? Ce sera la seconde partie de l'émission. Vous avez le programme, nous sommes là jusqu'à 11h. Oui, le peuple français n'a pas prolongé le mandat qui s'achève, commencé le 14 mai 2017. Ce peuple nouveau, différent d'il y a 5 ans, a confié à un président nouveau un mandat nouveau. Le temps qui s'ouvre sera celui d'une action résolue pour la France et pour l'Europe. Ce sont les mots, non pas de moi, mais d'Emmanuel Macron, prononcés à son discours de réinvestiture le 7 mai dernier. Il y a eu quelques mots 2 jours plus tard à Strasbourg et puis depuis, silence. Alors on l'a su au travail, formant lui-même scrupuleusement le gouvernement Borne, puis se servant du logiciel Excel pour remplir les noms des candidats Renaissance aux législatives. Mais en termes de prise de parole depuis, nada, walou, rideau, il n'y a plus rien là, hein. C'est terminé. Silence radio, qu'est-ce qui se passe?
Mais c'est toujours l'hyper-présidence,
Catherine,
mais silencieuse.
Ah oui,
voilà. Non,
oui, mais...
je dirais, il est à la manœuvre. Ah ben, en tous les cas, c'est un choix politique important qui est décidé même... je dirais, depuis le début de son quinquennat, qui a commencé le soir de la Tour Eiffel, oui, où on attendait un discours avec une vision.
C'est et vrai.
On a eu un discours court, un peu désinvolte, où le couple présidentiel est arrivé main dans la main, avec un air sérieux, entouré d'enfants. D'ailleurs, ça voulait dire quoi, hein? C'est vrai que, l'avenir. Oui, mais pas un mot. Bon, en tout cas, on a trouvé ce discours. On a été tellement habitués à ce qu'il parle long qu'on était presque frustrés que ça soit si court. Même chose pour son discours d'investiture. Et depuis, plus rien. C'est vrai. Alors, pourquoi le fait-il? Alors, quand il dit, il y a peuple nouveau, chose... Je veux dire, la seule nouveauté, c'est le silence. Parce que son gouvernement, c'est la continuité. Et donc, c'est le silence. Mais je crois que c'est un choix politique. D'abord, je pense qu'il y a eu peut-être une fatigue. Et il sait très bien que pour les législatives, le moindre faux pas peut être très, très, très... peut lui revenir en boomerang sur les réseaux sociaux, avec en embuscade Mélenchon qui, lui, voilà, qui n'arrête pas de... voilà, attend le moindre signe pour taper dessus, qui est présent, d'ailleurs, peut-être trop. Je veux dire, il faudrait se méfier de silence et trop de paroles. Mais voilà, c'est un choix politique pour les législatives.
Charles Villeneuve.
Moi, je trouve qu'il y a quelques paradoxes, si vous voulez, de lui reprocher maintenant le contraire de ce qu'il a fait pendant 5 ans, de se taire. Et je trouve que c'est un silence calculé. D'ailleurs, Catherine le sait bien, elle l'a dit. Et je suis d'accord. Et logique. Je trouve logique ce silence. Parce qu'il vient de nommer une première ministre. Elisabeth Borne, qui est une femme encore peu connue des Français, et les sondages le montrent, et il veut lui laisser le temps de prendre la lumière. Et puis, les élections législatives ont lieu dans moins de 2 semaines. Et dans la Ve République, traditionnellement, c'est la première ou le premier ministre qui conduit la bataille des élections et qui fait d'elle, et qui fera d'Elisabeth Borne, le chef de la majorité. D'où le retrait du chef de l'État qui, de surcroît, le place dans une position d'attente, d'arbitre, puisque l'après-législative, il faudra ajuster le dispositif politique. Et là, il est bien évident, et Catherine l'a dit, je suis entièrement d'accord, en réalité, il tient la baguette. Mais il se tait, et c'est ce paradoxe qui en même temps nous intrigue, parce que il faut jamais oublier que après les résultats des législatives, ou avant même, dans la semaine qui précède, les présidents de la République, tous ceux qui se sont succédés dans la salle, sont intervenus en disant la bonne parole.
Le bon choix.
Michel Cotta. Voilà.
Alors, c'est quand même un phénomène assez habituel, ces 15 jours avant les législatives, où le président se tait, effectivement parce que la moindre erreur se retournerait contre lui, et aussi parce que l'heure est à la bagarre. Au fond, on a l'impression qu'à Paris, il n'y a plus personne, mais ils sont dans toutes leurs circonscriptions. Tous les gens qu'on connaît sont maintenant en bagarre dans leur circonscription, n'ont surtout pas envie que le président dise quelque chose, sont presque au corps à corps, et c'est vrai que c'est au Premier ministre de régler les choses. Or, le Premier ministre, il faut dire qu'elle a commencé très tard dans cette bagarre. La bagarre législative a commencé avec des députés, avec des candidats, tout seuls, les uns contre les autres. Et puis, il faut ajouter que le troisième point, c'est quand même, dans les sondages, une forte représentation du NUPES, je ne sais pas toujours si on dit NUP ou
moi
NUPES,
je dis NUP, mais bon.
Avec des sondages qui laissent apparaître quand même, qui seront nombreux, et au moins, et plus d'une centaine à l'Assemblée nationale. Donc il y a quand même une bagarre sur place, très très dure, entre les représentants du NUPES qui sont redopés, dopés en quelque sorte, parce qu'ils ont réussi quand même le casse du siècle, de trouver le parti le plus important avec 27-28 degrés, devançant l'ensemble gouvernemental et majoritaire. Donc il y a sur place une vraie, vraie tension terrible, vraiment, que traduisent Cazeneuve, etc., c'est-à-dire les gens qui représentent l'ancien Parti socialiste, si j'ose dire, une tension terrible entre les représentants de la majorité parlementaire et du NUPES, même si c'est des socialistes grandins, la tension est quand même à son comble, alors qu'on ne voit rien. On ne voit rien en ce moment, évidemment. Elle se tait, il se taise, elle parle un peu, Macron ne dit rien, mais je crois que c'est une période politiquement dure.
Oui, non, mais Emmanuel Charles. Macron a un objectif, je pense que vous serez toutes d'accord là-dessus. C'est la majorité absolue pour sa coalition fragmentée, parce que c'est un cartel, finalement, électoral, si vous
c'est
voulez.
C'est cartel contre cartel, bancal, d'ailleurs. Ouais.
Mais oui, c'est vrai. Mais,
il s'y est résolu. Hein,
je suis d'accord avec Michel quand elle dit que Jean-Luc Mélenchon a réussi, de toute façon, vraiment une OPA formidable. Bon, parce qu'il répondait, et je persiste et signe là-dessus, à un désir profond de l'électorat de gauche qui voulait l'unité. Bon, nier cette coalition est absurde. Il le sait très bien. Et donc, il sait aussi que son cartel électoral, qui est composé, qui est un puzzle, qui est une sorte de puzzle entre le MoDem de Bayrou, Horizon, qui a capté quasiment tous les dissidents de droite modérés qui ont rejoint Édouard Philippe, plus La République En Marche, peut parfaitement n'avoir qu'une majorité relative, comme en 1988 sous François Mitterrand. Et à ce moment-là, il faudra peut-être négocier avec le groupe des Républicains et des dissidents socialistes, comme Bernard Cazeneuve, justement. Bon, et donc, partant de là, comme il n'a aucun désir de justement négocier et d'avoir une majorité relative, je pense qu'il se réserve, et dans un deuxième temps, je crois qu'il va faire feu de toute flamme.
Allez, une première pause et on revient avec les grandes voix et on balayera aussi les polémiques en ce moment qui sont face au gouvernement. À tout de suite.
Les grandes voix d'Europe 1.
Pierre de Villeneuve.
Michel Cotta, Catherine Ney et Charles Villeneuve pour les grandes voix. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui est inhérent à ce que vous venez de dire tous les trois, c'est qu'il y a aussi dans les médias une surreprésentation presque de l'opposition et en particulier de la NUP. Et on entend beaucoup moins les gens de chez Renaissance ou de Ensemble d'une manière générale, et en particulier le gouvernement.
Oui, mais moi, je vous souvenez, au début de la campagne, quand Zemmour s'est lancé, il n'y en avait que pour lui. Oui. Mais que pour lui. Et c'est pour ça aussi que Mélenchon a très bien compris que s'il voulait monter dans les sondages alors qu'il plafonnait, il fallait débattre avec lui. Et que le gagnant dans ce débat avec lui, ça a été Mélenchon. Parce que la radicalité de Zemmour...
Le tout premier débat télévisé entre Mélenchon et Zemmour sur BFM TV.
Oui, et la radicalité de Zemmour a poussé le vote communautaire vers Mélenchon. Bon. Maintenant, vous pouvez voir, vous ne pouvez pas ouvrir un journal, il est partout, Mélenchon. Il donne des trucs partout. Il joue l'aimable, à la fois, c'est la grande vindicte contre... Voilà, il veut tout changer, enfin, c'est le révolutionnaire. Et puis surtout, il a ce talent d'être... vraiment un orateur de guerre civile, quoi. C'est un révolutionnaire. Alors, les journalistes, il a du talent, les jeunes trouvent qu'il a du talent. Bon, c'est un danger, c'est un danger. Mais il est partout. Alors qu'en revanche, eh bien, les Renaissance, le parti de M. Macron, on ne les entend pas.
On ne les entend pas. On se demande s'il n'y a pas un blocage, d'ailleurs, du côté de Matignon.
Je pense qu'on les entend localement. Moi, je reprends mon...
Michel Cotard.
On a assez connu de campagnes législatives pour savoir que les types, ils sont sur leur terrain. Et, bon, et que ce soit le président de l'Assemblée nationale ou un plus petit candidat. Ils sont sur le terrain. Et donc, c'est vrai qu'on les entend. Alors... reste que, comme Mélenchon ne se présente pas, il peut à la fois dire « Puisque je ne me présente pas, vous devez m'élire. »
Premier ministre.
Il a trouvé un temps. Et moi, ce qui m'étonne toujours chez Mélenchon, c'est quand même qu'il traite des journalistes, mais vraiment très mal. Il y a des journalistes qui traitent très mal, à qui il dit « Vous ne comprenez pas ce que vous dites. » et on a l'impression qu'il y a une espèce de volonté des journalistes de s'entendre critiquer par Mélenchon, une espèce de masochisme de temps en temps. De masochisme.
On va où là?
Ben non, c'est vrai qu'il y a une espèce de... Moi je trouve que personnellement j'ai fait quelques émissions ici sur Europe 1 avec Mélenchon. J'ai trouvé qu'il nous avait très très mal traités et qu'on ne méritait pas ça. Et en revanche, on sort de l'émission et on trouve quelqu'un de très astucieux, très instruit, très magnétique quelque part. Donc c'est quand même un personnage. On ne peut pas dire qu'il n'est pas un personnage. Mais je trouve qu'effectivement, il est surreprésenté par
vous
rapport
disiez,
en fait,
vous disiez à propos des candidats Renaissance, c'est vrai qu'il y a une règle maintenant qui a été dite par Emmanuel Macron, c'est les ministres qui se présentent et qui échouent aux législatives, ils dégagent. Donc c'est le dialogue des carmélites, là. C'est à un moment donné, ils vont tous se faire couper la tête et puis
il y en a 15. Il y en a 15 de ministres.
Il n'est pas sûr que la surexposition ne finisse pas en épouvantail aussi.
Comme souvent, pour le moment.
Oui.
Oui. Merci bien.
Non, mais moi, ce qui m'étonne le plus, c'est bon, il y a une surexposition et c'est vrai que de temps en temps, il y a des rodomontades. Je ne sais pas si on en rit. Moi, ça me fait rire, mais je me demande très souvent de la part de Mélenchon s'il ne se prend pas trop au sérieux. Par exemple, quand il passe devant l'hôtel Matignon, c'est-à-dire le siège du Premier ministre, il trouve que la pelouse est plus large, plus profonde que celle de l'Élysée. Bon, alors, évidemment, c'est une plaisanterie, mais en même temps, cette surexposition finit par se transformer en épouvantail, pour moi. Et donc, on verra le résultat. On verra la résultante.
Moi, je cite...
C'est pas ça qui m'étonne le plus. Moi, ce qui m'étonne le plus, c'est que je trouve que de la part de Renaissance, des ministres notamment, et en tout cas du parti de la majorité actuelle, ils prennent un risque à ne rien annoncer avant les législatives, compte tenu de la hausse des prix, qui est le principal souci de l'opinion publique, et qui le monte sur les énergies, les carburants, l'inflation qui augmente. Ça donne aux Français le sentiment dangereux de l'inaction. Oui, je pense qu'il est... Attention au trop tard.
Il y a eu une allocution de Bruno Le Maire quand même sur le...
Oui, Bruno Le Maire.
Voilà. Mais
Bruno Le Maire ne se présente pas.
La Première ministre a annoncé un texte, mais c'est vrai qu'ils ne peuvent pas... Je vous rappelle qu'ils ne peuvent pas le faire.
C'est pour ça que je parlais de Bruno Le Maire qui a pris la parole juste
après. Mais ils ne peuvent pas le faire passer de toute façon. Évidemment, les discussions ne peuvent pas avoir lieu avant qu'il soit élu.
Mais attention à Mélenchon.
C'est pour ça que c'est 15 jours très, très difficiles dans l'histoire de la majorité. Toujours.
Ces propositions à Mélenchon, je le dis, je l'ai dit, je le répète, sont simples et tout ce qui est simple porte.
Oui, on bloque les prix, ça porte.
1500 euros 1500 euros pour le SMIC, ah. et puis le blocage des prix. C'est simple.
Si les gens retiennent.
Voilà. Voilà.
Et non, moi, j'ai envie de citer Édouard Philippe qui a dit cette chose très drôle sur Mélenchon. Il a quand même une certaine audace pour quelqu'un qui a été battu à une élection où il était candidat, puisse penser qu'il sera élu à une élection où il n'est pas candidat.
Bon, ben c'est du Édouard Philippe. Ça.
Oui, ça, c'est
oui,
drôle.
Mais c'est drôle, c'est drôle, c'est vrai, c'est logique. Non, mais je crois qu'aujourd'hui, les ministres...
C'est subtil.
C'est subtil, oui.
C'est du Édouard Philippe.
C'est du Édouard Philippe. Mais je crois que ce qui retient aussi de parler les ministres et peut-être le président, c'est que dans le fond, il n'y a pas de visibilité pour l'avenir. Alors bien sûr, l'inflation commence, mais ça va durer. Bien sûr, il va y avoir une loi sur le pouvoir d'achat. Mais est-ce qu'elle peut être pérenne pendant 5 ans, alors que l'on sait que à cause de la situation internationale, la guerre en Ukraine, la mondialisation à l'arrêt, eh bien, les effets les plus pernicieux restent à venir. Et que ça va être très difficile. Donc c'est vraiment, on est tout le monde... Bah, alors quand il y a des solutions simplistes, comme Mélenchon... qui joue les Pères Noël. Il n'y a plus qu'à ouvrir les vannes qui sont déjà ouvertes et nous sommes le pays le plus endetté de l'OCDE. Et moi, je trouve que ce silence, comment faire des promesses alors que l'horizon est tellement bouché? C'est ça aussi.
Une nouvelle pause dans les grandes voies. On revient juste après pour notamment voir la situation internationale. À tout.
Les grandes voies d'Europe 1.
Pierre de Villeneuve.
Les grandes voix d'Europe 1 avec Charles Villeneuve, Michel Cotta et Catherine Ney. Nous avons un gouvernement, une chef du gouvernement qui répète efficacité, rapidité, résultat et qui se retrouve face à deux polémiques grandissantes. D'abord, le cas d'Amien Abad et puis une autre polémique qui n'est pas inhérente au gouvernement mais qui existe, c'est quand même le burkini. Charles Villeneuve.
Ah bah écoutez, moi je trouve qu'Éric Piolle, le maire de Grenoble, est dans le même sillage que Jean-Luc Mélenchon. S'attacher à une force électorale communautaire. L'affaire du burkini, pour moi, s'inscrit dans une volonté d'association déterminée à islamiser la vie quotidienne. Vous avez eu déjà le voile, les cantines halal, le hijab des footballeuses et maintenant le burkini qui cache un vrai débat. Qui accentue les tendances séparatistes et met en difficulté ce qui reste, pour moi, d'unité nationale. Le burkini symbolise toute la soumission des femmes à un ordre patriarcal. Et si ça se répand, et ça se répandra, eh ben, si ça n'est pas interdit, vous verrez que les jeunes femmes musulmanes n'auront pas le choix que de se soumettre à la volonté de leur père, de leur mari, de leur frère. Moi, je connais bien, si vous voulez, j'ai été élevé dans les pays arabes, j'ai cohabité avec les musulmans, j'ai vu ce qui se passait au Liban, j'ai vu ce qui se passait dans d'autres pays. De toute façon, la férule patriarcale est la plus forte. Et les femmes, quel que soit leur état d'esprit, ne peuvent y résister. Et c'est ce qui va se passer. Et le burkini est un des signes de cette soumission.
Michel Cotta.
Je trouve que c'est aussi un signe politique important. Vous vous rappelez, la première fois qu'on a parlé du burkini, c'était un souvenir très précis de ça, 15 jours après l'attentat de Nice. Donc 80 personnes meurent sur la promenade des Anglais, et 15 jours plus tard, une quinzaine de femmes arrivent sur la plage d'Antibes, à côté, avec leur burkini. Alors, on ne peut pas dire que ça n'est pas un signe politique. C'est pas seulement, tu as raison, c'est aussi un signe de soumission, mais c'est un signe, moi, que je prends pour être politique, et politique à la veille des élections, ça veut dire que la communauté est quelque chose d'important pour des gens qui votent ou pour Piolle ou pour Jean-Luc Mélenchon. C'est un signe qu'on ne, à mon avis, qu'on ne peut pas accepter. Et on en a marre de dire un peu tout la même chose parce qu'on dit non, on peut pas l'accepter. Et puis de plus en plus, on voit que des gens l'acceptent. Alors j'ai vu quand même que les femmes musulmanes qui veulent garder leur liberté ont trouvé un truc formidable pour contourner leur mari ou leur compagnon. Elles louent à plusieurs des piscines privées où elles sont donc uniquement des femmes. Mmh. On leur loue, on leur laisse la piscine privée pendant une heure. Mmh. Elles le louent.
Mais une piscine municipale ?
Non, non, une piscine privée.
Piscine privée, oui. Privée, bon, chez quelqu'un, piscines. Quoi.
Il y a des gens qui disent, vous prenez ma piscine, elles vendent la piscine, 100 balles par heure.
Mais où elles vont se baigner en burkini.
Où elles vont se baigner, et elles vont se baigner...
En burkini.
Non.
Ben non.
Ah non.
Bon non, parce que c'est privé. Personne ne les voit.
Elles contournent, justement.
Moi, j'avais compris qu'elles
se... l'œil de l'homme. Non, mais c'est l'œil de l'homme qui est à éviter, évidemment. Mais s'il n'y a pas d'œil de l'homme, alors on peut y aller.
C'est ça.
Catherine.
Non, moi, ce que j'avais trouvé très choquant, justement, quand il y avait ces femmes qui étaient venues sur la plage après un événement qui était quand même la tragédie...
En juillet 2016.
Oui, en 2016, là, le fait d'un islamiste, c'était de voir qu'elles étaient certaines accompagnées d'hommes qui, eux, étaient en petit slip moule-boule, comme on dit, et qui regardaient, pardon d'être vulgaire, et qui regardaient avec appétit toutes celles qui n'étaient pas en burkini, tandis que leurs femmes venaient de se baigner, restaient sur la plage, et on connaît l'eau salée avec un burkini, vous êtes sûr que vous avez des maladies de peau et que c'est très dangereux, et tout ça, et que les femmes se soumettent à ça, j'avais trouvé ça mais extraordinaire, et le non-respect pour sa femme, pour sa compagne... Ah oui.
C'est devenu un signe d'existence et un signe politique. On ne peut pas éviter ça. Et quand Piolle dit non, à l'air comme ça, angélique par rapport à ça, c'est une façon de se fermer les yeux.
En disant, les femmes viendront aussi, si elles le veulent, les seins nus. La liberté. Non, mais
bon, avec le burkini ou justement les plages du sud de la France, ma transition est trouvée avec
Vous noterez que Mélenchon a eu un double langage. D'abord, il était furieux. Dans le fond, ça le gêne, cette position de Piolle. Parce qu'il sait aussi qu'il y a tout un électorat socialiste de gauche qui pourrait voter pour lui, que ça heurte énormément. Alors, il a dit à la fois qu'il n'était pas content. Et puis, il dit, mais pourquoi vous faites des histoires? Il dit, moi, de toute façon, je ne veux pas être le directeur des piscines. Il s'en sort toujours par une boutade. Mais il dit, allez, regardez. Mais à Rennes, il y a aussi déjà des burkinis dans une bain. Mais sauf que c'est arrivé avant la loi sur les séparatismes. Et que maintenant, depuis, il y a eu la loi sur le séparatisme.
Alors, on va marquer une pause et puis on va aller à Brégançon. Dans un instant, si j'ose dire à Brégançon, puisque c'est surtout les dossiers du président qui nous intéressent. À tout de suite.
Voix d'Europe 1.
10h, 11h.
Pierre de Villeneuve.
10h36, les grandes voix avec Michel Cotta, Catherine Ney et Charles Villeneuve. Le président de la République est en week-end prolongé à Brégançon, officiellement pour se reposer, mais aussi, a-t-on appris, pour mieux revenir dès lundi sur la scène internationale avec un sommet européen extraordinaire à Bruxelles, puis en juin avec les sommets du G7 en Allemagne et de l'OTAN en Espagne. Mais c'est vrai qu'on ne l'a pas vu à Davos, que sa dernière intervention remonte, comme je le disais en préambule, à ce fameux discours du 9 mai, qui a d'ailleurs beaucoup agacé l'Ukraine et les pays de l'Est de l'Europe. Qu'est-ce qui se passe avec le président Macron? Ce silence après tous ces mois sur la scène internationale, avait l'habitude de le voir, téléphoner à Zelensky, téléphoner à Poutine. Là aussi, c'est assez intéressant.
Il est un peu en froid avec Zelensky, parce que dans son discours à Strasbourg, il a dit cette phrase... ne jamais céder sur la Russie, il a dit ne jamais céder à la tentation ni de l'humiliation, ni de l'esprit de revanche envers la Russie. Donc pour Kiev, c'est de l'indulgence. C'est une chose qui est irrecevable. Mm. Mais pas seulement pour Kiev. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'Europe est divisée entre les pays, le Sud, et puis les pays qui ont eu à souffrir de la Russie et qui en gardent des souvenirs atroces. Que ça soit la Pologne, les pays baltes, la Roumanie, et donc ça, je veux dire, cette phrase-là n'est pas passée. Il est passé à côté de la plaque. Mais c'est un discours que tient aussi les Italiens. C'est-à-dire qu'il faudra bien un jour un compromis pour finir la guerre.
Voilà. Pourquoi tu dis qu'il est à côté de la plaque? Moi, je trouve qu'il est en plein dans la plaque.
Il est en plein. Mais je dis pas qu'il est. Alors... Mais pour ces pays-là, c'est quelque chose d'irrecevable.
Oui, je sais, mais quand
donc,
on dit.
Donc voilà. Oui, Marie, non, il n'est pas à côté de la plaque. Il essaie de dire la vérité.
Voilà. Il est confronté effectivement à une Ukraine qui refuse absolument toute tentative de prise qui veut son territoire, y compris. La Crimée, alors que la Crimée, depuis longtemps, quand même, s'était passée au fond...
On
a d'un côté une Ukraine qui ne veut pas négocier ou qui veut reprendre tout son territoire, et on a d'un côté une Russie qui attaque. Il faudra bien qu'à un moment donné, je ne sais pas qui gagne sur le terrain, mais il faudra bien qu'à un moment donné, il y ait une négociation qui s'installe. Alors, c'est peut-être pas encore... le temps de la négociation, parce que les uns et les autres, le sort de la guerre est encore, on voit bien, les villes sont reprises, abandonnées, reprises à nouveau, les armes arrivent du côté des Ukrainiens et elles arrivent aussi du côté des Russes. Bon, on ne voit pas exactement qui gagne en ce moment. Mmh. Mais le jour où il y aura vraiment quelqu'un, ou une guerre longue, ou quelqu'un qui aura plutôt gagné, il faudra bien négocier. Et au fond, c'est ce que veut dire, c'est absolument ce que veut dire Macron. Et je vous rappelle qu'au festival de Davos, où donc il n'est pas allé, un vieux de la vieille, Kissinger, qui a 96 ans, a dit exactement ça. A dit, à un moment donné, il faudra bien négocier.
Mais même Zelensky, il a dit il y a une semaine déjà.
Oui, mais ça ne veut rien dire. Oui. On peut dire, on veut négocier. À partir du moment où on lâche rien, c'est sûr qu'on négocie pas.
Je comprends.
La négociation, c'est de lâcher quelque chose. Voilà.
Oui, mais
de part et d'autre. Hein.
Oui, mais ce que vient de dire Lavrov est quand même inquiétant, parce qu'il dit l'Occident est en guerre totale contre la Russie. Cette situation va durer longtemps. Et là, il emploie le mot guerre.
Oui.
Donc, ça veut dire aussi que côté du Kremlin, on n'est pas du tout prêt à céder quoi que ce soit. Des deux côtés, pour l'instant, le temps de la négociation, mais c'est pas,
Charles Villeneuve.
C'est pas aujourd'hui.
Bon, il est indéniable quand même qu'il y a un agresseur et un agressé. Celui qui est agressé, c'est l'Ukraine. L'initiative de Vladimir Poutine est irrecevable de la part de toutes les grandes puissances, et le président de la République française, aussi bien que le chancelier allemand Olaf Scholz et Mario Draghi, donc en Italie, sont du côté de l'agressé. Mais pour autant, faut-il alimenter une intensification de la guerre en livrant des armes lourdes, comme le font la plupart des pays occidentaux aujourd'hui. Mais pas en énorme nombre. Par exemple, les fameux canons César, qui sont quasiment ce qui se fait de mieux en matière d'artillerie, si j'ose dire, si vous voulez, sur le plan des confrontations de la guerre. Bon, on en a livré deux batteries, c'est-à-dire une batterie comporte quatre canons. C'est un canon qui tire très loin, 40 km, qui tire très vite et qui se déplace très vite, qui est monté sur camion, très agile. Bon, ce qui fait que c'est très difficile à le localiser et à remonter sa trajectoire. Mais c'est bien évidemment, si vous voulez, on contribue finalement à prendre le statut de co-belligérant. C'est ce que veut éviter Macron, c'est ce que voudrait éviter aussi le chancelier allemand. Et puis, je vous signale que dans tous les grands journaux, le New York Times, le Washington Post, commence une polémique aux États-Unis qui est tout à fait nouvelle en se posant la question, on vient de donner, de débloquer 40 milliards de dollars pour aider l'Ukraine. Est-ce qu'on ne pourrait pas placer ces 40 milliards ailleurs, notamment sur le plan social, aux États-Unis? C'est un début de polémique qui pose la question de fond. Cela étant, Poutine est lancé dans une opération depuis qu'il a surtout appelé aux commandes le général Dvornikov, qui est un tronçonneur, comme on dit, c'est-à-dire qu'il il a une spécialité, c'est d'anéantir sous les bombes toute résistance. Et c'est ce qu'il est en train de faire au Donbass. Et c'est une intensification de la guerre, c'est-à-dire que toutes les villes du Donbass vont y passer de la même manière que Mariupol. Et ça,
donc rasé.
Et rasé, absolument. Un déluge de bombes, ce qu'on appelle placer une ville sous les feux de l'artillerie. Bon, et par-dessus le marché, il a recentré le commandement russe, il a activé l'alimentation logistique, c'est-à-dire deux défauts de l'armée russe jusqu'à présent. Or, il avance, et les gains territoriaux qu'il va de toute façon décrocher vont permettre sans doute à Poutine, qui vient de faire une proposition, mais qui est maligne et surtout très vicieuse, on va y arriver, de négocier à un moment donné. Parce que n'oubliez pas que les Russes sont 148 millions, ils ont donc la masse d'alimenter en hommes de toute façon cette guerre, et par-dessus le marché, ils consacrent à 3,83% du produit intérieur brut au budget de la défense. Nous en sommes à 1,80%. Les Américains sont à 3,43%. Et nous ne pourrions, si nous étions pris dans ce type de confrontation, nous serions incapables de mobiliser plus de 15 000 hommes sur le front.
Alors j'ajoute que l'armée russe, ce matin, annonce avoir effectué avec succès un nouveau tir d'essai du missile de croisière hypersonique Zircon, qui a été tiré de la frégate Amiral Gorchov en mer de Barents vers une cible dans l'Arctique. Mais enfin, c'est une démonstration de force supplémentaire.
Ça fait partie de la gesticulation. Ce qui me paraît très difficile à supporter, y compris pour nous tous, même si on n'est pas des bellicistes absolument à tout craint, quand même, quand on voit dans Mariupol la publicité extraordinaire des Russes essayant de russifier en quelque sorte cette population qui vient d'être massacrée, on a quand même un pincement au cœur et on se dit comment sont les gens de Mariupol, parce que ils ont vécu des drames, et à la fois voir sur ces camions, ces écrans géants dans lesquels on vous dit la Russie c'est formidable, c'est difficile à supporter, hein. Et y compris, on comprend assez bien Zelensky et ses
fulgurances.
Catherine. Quand tu dis que là, avec 148 millions, il y a des réserves d'hommes, mais sur ces 148 millions, plus de la moitié de la population a plus de 50 ans, et c'est un pays qui ne fait pas d'enfants. Et ce que je trouve intéressant, mais qui est peut-être minuscule, et tu vois, il y a une loi qui est passée à la Douma qui demande maintenant, on peut s'engager jusqu'à 40 ans, parce que les jeunes ne veulent pas y aller. Bon, ça, c'est intéressant. Moi, il y a deux petites choses, enfin, c'est minuscule, mais que des élus communistes appellent à arrêter l'offensive en Ukraine. Ça, c'est arrivé. Bon, c'est dans l'Extrême-Orient, dans l'Est russe, mais qu'un homme ose dire arrêtez, on est en train de tuer notre jeunesse, des pères de famille et des gens qui reviennent estropiés quand ils ne sont pas morts, il faut arrêter. Bon, il va sûrement faire 15 ans de prison, on ne parlera plus de lui. Mais là, ça veut dire aussi que même très loin comme ça de Moscou, on sait très bien le prix à payer en vie humaine, et que c'est très lourd sûrement de voir, parce que maintenant c'est bon. Et puis il y a aussi la rupture de l'église russe de l'orthodoxe qui était liée à Moscou. Il y avait déjà un premier schisme avec celle qui déjà était à moitié en rupture, mais là elle a rompu avec l'église de Moscou. Donc ça c'est, et quand même Kiev c'est un peu le Vatican de la Russie, et donc ça aussi, alors ça c'est... Je me dirais,
cette unité russe à laquelle on pourrait croire est en train de, non pas de s'effriter, mais de s'émailler.
On n'a pas de vrais renseignements.
Mais attendez, sur l'église orthodoxe, il y a l'église orthodoxe russe, il y a l'église orthodoxe d'Orient. Bon, ce ne sont pas les mêmes.
Il y a eu un schisme entre les deux.
Mais c'est, si j'ose dire, mineur. Démonstration démographique.
Catherine a dit que c'était des choses minimes.
On ne sait pas grand-chose.
Moi, ce qui m'a étonné Michel aussi Cotard. De ce point de vue-là, c'est que on ne sait pas grand-chose sur l'opposition à Poutine, ni la façon dont elle pourrait se manifester, ou à l'extérieur ou à l'intérieur de la Russie. En tout cas, j'étais moi étonné de voir que pour la première fois, Poutine allait rendre visite aux blessés. Aux blessés de la guerre.
En bonne santé, ils étaient debout en pyjama.
Ce que je veux dire, c'est qu'il reconnaît quand même. Il reconnaît.
Alors que pendant très longtemps, il y a une pression importante de la part des associations de maires, et cette pression-là, il ne peut pas la négliger.
Mais ça veut dire, on est bien d'accord, mais ça veut dire que la Russie maintenant sait qu'il y a des morts. Et c'est que ses enfants meurent. Mais ils ne peuvent pas l'ignorer.
En se battant contre des frères.
Juste un mot.
Un mot.
Et l'opposition à Poutine s'est exprimée à travers un certain nombre de journalistes. Ils sont tous morts. Ils ont tous été assassinés.
On comprend qu'ils se parlent moins, oui. D'accord.
Eh bien voilà. Nous, on est toujours vivants et on continue. 10h48, c'est les Grandes Voix, tout de suite.
Les Grandes Voix d'Europe 1.
Pierre de Villeneuve.
Dernière partie des Grandes Voix avec Michel Cotta, Catherine Ney et Charles Villeneuve. Et à l'instant, Charles, on apprend que l'armée russe confirme la conquête de la localité clé de Liman. C'est important.
Oui, c'est important parce que c'est une petite ville, mais qui consiste, si vous voulez, à recentrer et reconcentrer tout le nœud ferroviaire qui ouvre, si vous voulez, les espaces sur le Donbass. Et quand vous contrôlez ça, vous contrôlez une bonne partie de la circulation, si j'ose dire, notamment des colonnes militaires.
Bon, voilà pour cet urgent. Pas beaucoup d'écho élyséen sur le front ukrainien, on l'a dit, mais du côté du Kremlin, c'est une autre Kalinka qu'on a entendue. Et c'est une première depuis le début du conflit. Vladimir Poutine a annoncé envisager discuter pour débloquer les stocks de blé retenus dans les ports ukrainiens afin de trouver une solution à la crise alimentaire mondiale, mais à la condition de lever les sanctions internationales envers la Russie. Bon, on n'a rien sans rien.
Hein. Oui, non, mais elle a un double sens, cette proposition, si vous voulez. Moi, à première vue, je me suis dit, ah, c'est un premier pas vers, finalement,
une paix.
Oui, sinon une paix, en tout cas, une négociation diplomatique. Ouais. Place à la diplomatie. Mais pas du tout. C'est en cela qu'elle est très vicieuse. Elle est destinée d'abord à son opinion publique. Les sanctions économiques et financières des Européens et des États-Unis commencent à peser sur leur système de la vie quotidienne. Il y a des répercussions sur les Russes, proprement dit, sur l'opinion publique. Et puis, elle est aussi destinée à l'opinion des pays qui sont nombreux, il ne faut pas l'oublier, qui ne sont pas ralliés aux sanctions économiques. Vous avez des grands pays, vous avez l'Inde, toute l'Asie mineure, le Moyen-Orient, l'Afrique, comme le Sénégal, pays ami de la France, et puis des pays d'Amérique du Sud. Et le blocage des ports de la mer d'Azov et de la mer Noire, comme Odessa, empêche l'export des céréales et le but, c'est de faire dire à tous ces pays qui ne sont pas ralliés aux positions occidentales, c'est la faute des Occidentaux si le monde commence à avoir faim. C'est
d'ailleurs,
un peu ça.
Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il ne dit pas ça n'importe quand. Lundi, les Européens se réunissent pour essayer de trouver un huitième volet de nouvelles sanctions auxquelles, pour l'instant, seul le président hongrois s'oppose.
Ceci étant quand même, là aussi, Kissinger l'a dit, il y a, si on reste comme ça, une menace quand même de famine dans des endroits comme l'Afrique, qui ne sont pas concernés par cet affrontement.
Alors, ça
veut dire, justement, c'est pour ça. Oui. Donc, il y a quand même une façon de dire aussi. Il faut que je puisse desservir, selon Poutine, il faut que je puisse donner du blé aux pays qui sont pour moi. Parce que sinon, il les perd, ces pays-là. S'il démontre qu'il fait une famine terrible sur les gens qui sont en plus de son côté, c'est vrai que c'est difficile. Donc, il essaye de trouver le moyen d'ouvrir un peu la porte pour garder...
Donc là, vous trouvez de l'humanité chez Poutine.
Non, pas du tout. Je pense qu'il
non.
Je pense que c'est un calcul politique.
Oui,
c'est un calcul politique. Il faut que j'aide ceux qui m'aident. Donc, il faut que je trouve le moyen de débrouiller, de délivrer le blé.
Pierre, il faut se rappeler que des pays comme le Maroc, comme l'Algérie, comme la Tunisie, la Libye, l'Égypte mangent beaucoup de pain.
Oui.
Et que les céréales, c'est la base du pain.
Voilà.
Et
la
semoule, le blocage à partir.
La semoule, c'est du blé.
Il ne veut surtout pas que son offensive touche d'abord les gens qui le soutiennent. C'est vrai que ce serait paradoxal.
Catherine Ney.
Oui, mais ça, entre la famine, créer la famine, ça a toujours été dans les plans de Staline et d'autres. Mais bon, mais pour l'instant...
C'est ce que Staline avait fait avec les pays baltes.
C'est ce qu'il avait fait avec les pays baltes, qui ne l'ont pas oublié, avec les Ukrainiens, qui l'ont encore moins oublié, et qui aujourd'hui, dans certains villages du Donbass, sous les bombes, ont beaucoup de mal à trouver de l'eau, des aliments, et qui sont en train aussi de mourir de faim. Mais c'est vrai que pour Poutine, perdre ses clients, enfin, je veux dire, ceux qui le soutiennent, et qui le soutiendraient peut-être plus, mais l'opprobre général, moi, je crois qu'au fond, il s'en moque aussi. Mais il faut bien aussi qu'il ait des débouchés pour son blé.
Oui, tout à l'heure, tu évoquais à juste raison le sommet européen des 27 qui va se tenir dans quelques jours.
Lundi et mardi.
Il faut savoir que Zelensky, le président de l'Ukraine, va venir plaider devant eux et compte sur l'appui des bellicistes contre les trois, le fameux trio français, italien et allemand, veulent ralentir justement la livraison d'armes lourdes.
Ben, je veux dire, en tous les cas, Olaf Scholz, qui a promis des tanks qui ne sont pas encore arrivés, Scholz, et il dit qu'il faut absolument que la Russie perde, mais il n'envoie pas les armes qu'il faut pour aider la Russie.
Au fond, on s'est dit que ça unifiait l'Europe, ce conflit, dans un premier temps.
Et puis là,
et en fait, maintenant, ça la divise.
Michel Cotta, Catherine Ney et Charles Villeneuve, vos grandes voix qui reviennent la semaine prochaine. Merci à tous, très bonne journée et bonjour à Laurent Mariotte.
Bonjour Pierre et bonjour les grandes voix.
Bonjour.
Alors, le débat ne manque pas de sel, hein, bien souvent. Eh bien, il y en aura dans cette émission. On va parler de cet exhausteur de goût avec toute la bande. Et puis, on s'intéresse aussi aux grands classiques de la pâtisserie. Et l'actrice Julie Gayet sera des nôtres. À tout de suite.
À tout de suite.